C'est des rigolos de kermesse.
Les mecs, ils en ont rien à foutre de leurs citoyens.
Tout ça fait qu'en ce moment, il y a une espèce de mal-être ambiant.
Moi, je rêve, oui, que ça se sabote. Ça, c'est un rêve.
Ça grésille dans le poteau. Histoire de la lutte contre la THT Cotentin Maine. Un objet radiophonique en 5 épisodes, réalisé à partir d'entretiens enregistrés de 2013 à 2016.
L'arrivée des Verts et des socialistes au pouvoir, ça correspond à ça aussi.
Merci les Verts.
Et les aberrations de notre État, du système du capitalisme.
Ah, les pelles à Vinci, les pelles à Eiffage et les pelles à Bouygues, c'est fait beaucoup de la merde. Quoi.
On les aura, vous n'êtes pas vous inquiéter, on les aura. On les aura d'une manière ou d'une autre.
Épisode 4. Hélico, lacrymo et tribunaux. Pression et répression à très haute tension. Premier volet de l'épisode sur la stratégie répressive dans la Manche. Crash un manchot crescendo.
Le regain de la mobilisation contre la THT dans la Manche coïncide avec l'arrivée des travaux fin 2011 et avec l'engouement militant anti-nucléaire de l'après-Fukushima sous l'impulsion du camp de Valogne. La lutte reprend vie pour empêcher les travaux d'avancer et la ligne de se construire. Elle reprend avec une assemblée de lutte, un point de rendez-vous, une occupation de bois, de multiples actions publiques de déboulonnage, des blocages de chantiers mais aussi des dégradations nocturnes, des sabotages anonymes. Toutes ces actions engendrent inévitablement, à un moment ou à un autre, une réaction de l'État. C'est ce fil que se propose de suivre cet épisode entre les pressions exercées sur les habitants et les personnes mobilisées et la répression subie par le mouvement.
Enfin, si on reste sur la question de la réception par les forces de l'État de ces tentatives d'opposition nucléaire, je pense qu'il y a eu un peu une rupture entre ce que l'État a déployé comme force de répression à Valogne proprement dit et l'histoire de s'impliquer dans la THT. Du coup, enfin, dans un premier temps, je pense qu'il y avait un précédent de l'opposition à la THT qui ne promettait pas d'un seul coup une montée en puissance de la radicalité qui irait jusqu'à empêcher les travaux de se faire, quoi. On a bénéficié un peu, dans un premier temps, dans la Manche autour de la THT, d'une espèce de non pas de bienveillance, mais en tout cas de regard extérieur qui prenait le temps, de la part des flics, d'analyser à qui ils avaient affaire. Et c'est que les premières actions ont pu se faire assez tranquillement, en fait.
Les premières assemblées, ouais, c'était plutôt... de la part des flics, c'était un peu... de voir un peu les forces en présence, mais qu'il n'y a jamais eu aucune intervention. Ça a commencé à peu près au mois de février, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plutôt... ils étaient en attente, quoi. Ils étaient là, ils n'étaient pas nombreux.
En fait, les gendarmes n'avaient pas encore une présence qui crée une tension palpable.
À part quand ils sont venus hyper nombreux en face le bois, parce qu'on l'occupait, quoi. C'était, je pense, un peu là. Premier gros débarquement de gendarmes et gardes mobiles et psy et camions bâchés, enfin d'un coup ils ont amené du monde, ils passaient chez Yves.
Quand on voit 80 gardes mobiles se déplacer pour un piquetage dans le champ d'un paysan, on se dit quand même que et avec casque et matraque et bouclier, la totale quoi, donc oh. Mais d'un certain côté, je dirais, on se sent important, tout de suite on se dit tiens, nous dans notre petit rang, on arrive à faire bouger tout ça, ouais.
Pour le fameux piquetage en face du bois, et là c'était la première alerte en fait, où on était tous au bois, etc. Donc je pense que c'est pas mal de revenir effectivement sur la.
Et c'est après qu'il y a eu les lagages, c'est ça?
Ouais.
Du coup c'était quoi ce jour-là? Il se passait, il y avait quelque chose dans le bois occupé?
On était dans le bois.
Je pense que c'était après une AG ça. Et qu'à un moment donné, pouf, on apprend on entend les tronçonneuses, etc. Il y avait tout un truc comme ça, on entend les tronçonneuses, et là, il y a un groupe qui part et qui dit, bah tiens, là, ils doivent être dans les chaînes, en dessous du bois, etc. Et puis, il y a un groupe qui est parti sur les...
On est allé à Quinzaine, on est monté là-bas, et du coup, il y a quelques personnes qui se sont dit que c'était bien de monter sur les arbres. C'était des petits arbres, pas très hauts. Et là, sont arrivés les... Alors, ils étaient déjà là, mais peut-être qu'ils étaient à un autre endroit, mais les alligators ont débarqué et ont commencé à couper les arbres sur lesquels on était montés. Et il y a un paysan du coin qui est venu raisonner le... un des alligators qui était complètement fou, qui l'a empêché de couper les arbres sur lesquels les gens étaient montés.
Les flics ont fini par intervenir à ce moment-là.
C'est trop bien.
Mais plutôt pour nous protéger du taré avec sa tronçonneuse.
Avec Régis, qui était à côté des keufs.
On était vraiment là dans la première phase de la rencontre avec les keufs.
Ce film-là, est-ce qu'on peut dire que
les flics nous ont protégés des bouchons?
C'est trop dur.
Pourquoi ça a été leur premier réflexe? C'était de calmer le bonhomme. Ça n'a pas été de nous virer.
Ça va.
Ouais.
Ça va, en fait.
Et en fait, après, tout le monde est parti et on a pu planter des clous dans les arbres pour compliquer le travail des bûcherons par la suite.
Ça a vraiment... Enfin voilà, les élagueurs sont rentrés chez eux, on les a plus revus pendant des mois, en fait, à ce moment-là. Et quelque chose qui avait été posé par rapport aux élagueurs. Avec le boucher, hein, l'élagueur boucher, là, comme on l'avait surnommé.
Et ce moment-là, c'était, par exemple, les assemblées, elles se tenaient depuis combien de temps à partir, enfin, au moment où il y a eu l'occupation du bois et le...
Ça faisait 2-3 mois, quoi, je crois. Si la première assemblée, c'était en janvier, les bagages, c'était en mars.
Du côté de l'État, ils commencent à se rendre compte que les gendarmes à eux seuls n'arrivent pas à dissuader et empêcher les gens d'agir. On voit donc apparaître en parallèle, sur cette journée-là, de l'élagage, une nouvelle forme de pression pour contrer les blocages et les occupations qui arrive par voie d'huissier et qui commence à mettre la pression du côté du porte-monnaie.
Oui, il y a eu cette fameuse ordonnance du tribunal de Coutances, enfin, qui a été prononcée en premier par le tribunal de Coutances, c'est là qu'on l'a connue. Donc les forces de l'ordre menaçaient d'une astreinte de 2000 euros par heure commencée et par personne se trouvant donc sur des espaces de chantier, sur les dépôts, sur toute possession de RTE. Outre le fait de menacer de 2000 euros par heure et machin, cette ordonnance en fait permettait aussi, et ce sans passer par la justice, de faire expulser des lieux tout contrevenant, qui a quand même aussi mis un sacré frein aux actions publiques.
Après, ils ne l'ont jamais mis en application, l'ordonnance. C'est une question, je sais pas.
Non, ça a toujours été un peu une menace.
En fait, la seule mise en liquidation, c'est-à-dire la seule fois où RTE a demandé à ce que quelqu'un paye ces fameux 2000 euros, ou d'ailleurs c'était plus que ça, c'était 12 000 euros, parce qu'il devait y avoir quelque chose comme 6 heures commencées. Donc ça n'est arrivé qu'une fois, et c'est arrivé à l'encontre d'une personne qui était considérée comme propriétaire ou copropriétaire d'une parcelle sur laquelle il y avait des pylônes, un pylône à Saint-Martin-d'Aubigny. Et ce, alors, sans considérer du tout s'il était sur la partie de la parcelle qui était un chantier ou pas. Mais c'est été la seule fois où une personne a réellement été sous le coup de cette astreinte.
Poursuivi
en justice, donc non pas pénalement, puisque c'est une action civile. De mémoire, il en a été... il n'a pas eu à payer les 12 000 euros.
D'accord. Tant que la paperasserie est en ordre, faites ce que vous voulez, les gars.
Ouais, c'est étonnant, parce que même, c'est ça, au mois de mars, où ça commençait, il commençait à y avoir de plus en plus d'actions, et notamment même à Montabeau, entre la grange et la ligne, il y avait des chemins d'accès où on les voyait arriver avec les premiers tubes, les premiers... Il commençait les fondations, en fait, dans la pente, là, où il y a eu le camp de Montabeau. Et là, la première fois, on a vraiment entendu... Enfin, c'était une des premières fois, pour le coup, entre, effectivement, le fait qu'on se soit opposé à l'élagage en face du bois de Jean-Claude Bossard, c'était un blocage qu'on a fait avec des véhicules pour empêcher un gros camion qui devait arriver avec des gros tubes de fondation. Et là, il y a un huissier qui est revenu, il y a Laurent Prantou, donc le responsable des travaux de RTE, hein, pour simplifier, la bête noire de RTE. Là, ils nous ont présenté cette ordonnance et les gendarmes étaient là, c'était les gendarmes locaux. On avait encore affaire aux gendarmes locaux. C'était plutôt, on discute, oui, la désobéissance civile, on voit bien, nous on comprend ce que vous faites, etc. Pendant ce temps-là, ils prenaient toutes les plaques des véhicules. Et y compris ceux qui étaient sur la voie publique, qui étaient relativement bien rangés. Et à ce moment-là, ils ont commencé à convoquer.
Et ils ont convoqué les propriétaires des véhicules qui étaient dans le chemin d'accès au chantier.
Oui, ou même pour certains qui étaient sur le bord, pas très éloignés. C'est vrai que c'était l'action du 19 était l'action qui était aussi la plus publique, où il y avait un peu plus de monde, et où le chantier avait dû être totalement arrêté. L'impression que c'était un peu la même chose que pour les premières convocations dans la Manche, avec vraiment une volonté d'intimider les gens du coin. Et de fait, là, c'était beaucoup de militants de Percy sous tension qui étaient présents. Donc certains se sont pas du tout, ne s'en sont pas du tout laissés compter, mais d'autres ont effectivement eu l'impression d'être qu'il fallait qu'ils arrêtent parce que sinon ils allaient passer du mauvais côté de la barrière, quoi.
Ça a été les presque premières convocations. Il y en a eu aussi d'autres sur des balades sous les pylônes, je crois qu'on les avait appelées comme ça. Celles-là, elles avaient commencé en février, au mois de février, où on allait, on partait en cortège de voitures. Et là, on allait voir en fait ce qui se passait sur les travaux. Et notamment à l'époque, ils étaient en train encore de faire les chemins d'accès. Et du coup, là, il y avait eu beaucoup de blocages de chantiers, où il y avait des blocages de pelleteuses, etc. C'est des choses où les gendarmes étaient là, ils constataient, mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Il y a eu quelques auditions.
C'était juste après la première occupation de chantier de Hauteville-la-Guichard. Et l'occupation de chantier, c'était en janvier.
Le 26 janvier.
Je me souviens que c'était un simple blocage de chantier.
Mais apparemment, il y a eu une plainte pour, par rapport à un véhicule qui aurait eu ses pneus dégonflés. Enfin, le propriétaire... T'avais posé une question là-dessus, non ?
Ah, il me semble, oui. Je sais plus. Oui, ils m'en ont parlé.
Moi, ouais. Ils m'en ont pas parlé du tout, alors que toi, je crois qu'ils t'en avaient parlé.
Oui.
Un petit peu, puisque...
Mais ce que je me souviens bien, c'est qu'il prévenait... Enfin, ça, il l'a répété plusieurs fois, qu'il fallait, pas passer au stade des dégradations, parce que sinon, c'était de la correctionnelle, c'était très grave, qu'il fallait s'arrêter là, que c'était un avertissement, et que voilà, que de toute façon, maintenant, ils avaient mon nom, mon adresse. Alors, c'était vraiment... Enfin, ouais, c'était plus un avertissement, une mise en garde, quoi. Moi, je l'ai plus pris comme ça.
Mais ça, jamais il y a eu de suite sur ce genre de choses, alors que c'était de l'entrave à travaux, c'était caractérisé, il y avait une loi de fait. C'est vrai que c'est notable que, en tout cas, sur cette période de mars, et on va voir, ça va changer en fait quand même au mois de mars, et notamment sur des actions publiques. Est-ce que celle du 11 mars, notamment, ça peut être intéressant d'en parler, où là, quand on se rapprochait des pylônes, apparemment, c'était un peu plus... Ça commence à être un peu plus tendu, quoi.
Bah, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne protégeaient pas les pylônes en amont. C'est-à-dire qu'on avait le temps d'arriver et ils arrivent en même temps. Et donc c'était un peu une lutte de corps à corps, quoi, avec eux. C'était marrant, quoi. Ils ne gageaient pas, ils ne matraquaient pas. Ils essayaient de récupérer les outils qui nous servaient à déboulonner. Du coup, on donnait des coups de pied dans les clés. Du coup, ils n'arrivaient pas à les... Il y en a même des flics qui se sont pris des coups de pied dans les mains. Si au moment où ils chopaient la clé, quelqu'un donnait un coup de pied dans la clé, mais en fait tapait sur la main du gendarme, il se relevait en se disant qu'il avait mal à la main. C'était vraiment les pieds des clés.
Ouais, c'est le début où ils ont essayé d'aller au contact, quoi, essayer d'arracher les capuches, et donc commencer à essayer d'arracher les draps, en essayant de voir au-dessus ce qui se passait.
Mais ouais, mais tout le temps, toujours sur une forme un peu ludique, quoi. Enfin, tu pouvais pas prendre au sérieux la répression là, telle qu'elle était faite.
Vite, il faut se cacher! Il y a un policier! Stop, pousse-toi! Tu crois que s'ils nous voient, ils vont nous faire la guerre nucléaire? Tu mélanges tout. C'est les barbudos qui veulent la guerre nucléaire. Ceux de Philomena, ceux qui sont rouges et barbus. C'est toi qui mélanges tout. C'est le Père Noël qui est rouge et barbu.
Enfin, après les premières actions, moi je me rappelle, c'était. Moi j'en ai fait qu'un blocage de chantier. C'était plutôt tranquille quoi. Enfin, c'était bien justement, parce que du coup il y avait pas mal de gens du coin qui étaient là.
C'était... Oui, puis c'était à découvert, enfin il y avait pas peu d'enjeux.
Voilà, on n'était pas masqués du tout. C'était... Mm. Puis c'est vrai qu'après, à partir du moment où on faisait les actions de déboulonnage, il y a des gens qui se masquaient pas.
Non, mais il y avait des draps quand même, ouais. Qui voilà, étaient mis pour draps, cacher les gens, voilà, qui déboulonnaient.
Il y avait un peu une répartition des rôles entendus, quoi. Ceux qui se masquaient pas forcément ne participaient pas activement au déboulonnage. Mais pouvaient être devant là, à masquer en fait par leur simple présence à butiner les uns aux autres, plus une bâche s'il y avait besoin, à masquer ceux qui faisaient quoi. Mais que ça donnait une ambiance qui restait bon enfant, parce que c'est vrai que dès l'instant où tout le monde est masqué, ça, d'un seul coup, que ce soit enfin, pour les flics ou pour les médias qui ont quand même tout le temps été là un peu quand on faisait les actions. Ça fabrique une autre image, quoi. Mais c'est vrai que quasiment tout le temps, il y a eu cette répartition des rôles où tout le monde n'était pas masqué. Mais parce que aussi, il y avait beaucoup de gens du coin pour qui c'était une pratique qui ne leur convenait pas et qu'ils avaient envie de continuer à faire ça à visage découvert. Enfin, mais du coup, c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas eux qui mettaient la main à la pâte pour. Pour le faire. Après, c'est vrai qu'il y avait une espèce de discipline qui s'est installée assez facilement, hein, de ne pas laisser les outils sur place. Voilà, de mettre des gants, d'essayer de ne pas laisser d'empreintes. C'est vrai que ça s'est assez bien tenu, en fait, ce qui fait que c'est pour ça que les procès, je pense qu'on. À la fois, soit il n'y en a pas eu, soit ceux qui ont eu lieu. Les procureurs ont eu beaucoup de mal et les juges. Aller au bout de la logique répressive, parce que les éléments manquaient.
Il n'y a eu qu'un seul, dit déboulonneur, à passer en procès après avoir été arrêté sur une action publique médiatisée par France 3 Normandie et la presse locale. Il s'agit de Michel Houssin, qui est un actif de la CONF, et qui s'y était prêté à visage découvert avec quelques autres personnes. Et c'est vraiment le seul procès de cette teneur-là de toute la lutte. Et qui aboutit à une simple condamnation financière, bon, de quand même 1000 euros, à laquelle on peut rajouter 2500 euros de réparation des dégâts soi-disant causés sur le pylône. En tout cas, c'est ce qui correspond au verdict en première instance. Et mais je me souviens pas de la décision en appel, enfin en tout cas... ça donne quand même un ordre d'idée de la répression judiciaire pour un déboulonnage de pylônes qui reste de l'ordre du symbolique.
Si on part sur les modes d'action clandestines, c'est vrai qu'eux ont encore moins fait l'objet d'une répression avec des résultats, en fait, puisque, à ma connaissance, aucun des actes faits de nuit n'a eu de suite judiciaire. Et c'est vrai que ça, c'est. Enfin, bon, voilà, il y avait une certaine forme d'intelligence quand même collective pour réussir à ne pas tout miser sur les actions publiques où on voyait bien, enfin on a bien vu au fur et à mesure que de moins en moins de choses étaient possibles. Quoi.
Je me rends compte qu'on est passé assez vite sur un passage qui pourrait être intéressant à raconter, mais je ne sais pas si vous avez vécu l'histoire des convocations et tout ça, qui sont arrivées assez tôt, enfin je sais pas, février-mars, il y avait des convocations. Et il y a eu plein de discussions collectives sur la manière de réagir à ça, y aller, pas y aller. Et ça a été assez intéressant ce moment-là, je trouvais, parce qu'il y avait donc des personnes qui étaient ciblées et il y avait la volonté de partager ce truc-là pour essayer d'avoir une espèce de stratégie collective. Et je trouverais ça assez intéressant de donner un peu des infos par rapport à ça, notamment si ça arrive dans d'autres lieux de lutte, voilà, de raconter quelle posture on peut avoir vis-à-vis de ce type de convocation et qu'est-ce que ça peut donner.
Moi, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait une copine qui s'était fait auditionner, qui avait parlé un petit peu, et que ça avait déclenché justement ces discussions-là. Qu'après, justement, comme elle s'en voulait d'avoir... Elle avait balancé personne, mais elle avait parlé un peu trop. Et du coup, après, il y avait eu des discussions là-dessus, où justement, bah, c'était précisé à tout le monde de... Il y avait même un fly de fait. C'était précisé à tout le monde qu'en cas d'audition, bah, faut rien dire, en fait. Rien dire du tout, mais pas répondre aux questions. Ça avait plutôt bien marché, je crois.
En tout cas, il y a cette possibilité-là, à ce moment-là, de discuter le fait d'aller ou pas à une convocation, en fait. Mmh. Parce qu'on peut se dire, bon, bah, je suis convoqué, il faut que j'y aille, je me sens un peu pris comme un rat. Si j'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, le fait d'en discuter collectivement, j'ai l'impression qu'à des moments, ça a aidé des gens à prendre une décision. Que ce soit y aller ou pas y aller, mais qu'en tout cas... ça permettait de mesurer un petit peu quelles étaient les conséquences dans un cas ou dans un autre et réfléchir à une stratégie là-dessus.
Et puis surtout, ça touchait aussi pas mal des gens qui habitaient par là-bas, qui étaient pas, ça touchait moins les personnes un peu plus habituées à ce genre de situation, voilà. Et du coup, c'était hyper important d'en discuter.
Ouais, et puis d'en parler, ça dédramatise, ça permet de faire baisser la potentielle panique à l'idée d'être convoqué, et puis de se sentir plus fort, de dire bah non, moi j'ai rien à vous dire.
Ouais, c'est que la plupart du temps, ces convocations sont des procédures d'intimidation, en fait, mais qui n'iront pas plus loin, en fait. Du coup, faut en avoir conscience. Enfin, c'est bien d'échanger autour de ça pour que tout le monde arrive à le vivre comme ça, quoi. Enfin, pas paniquer au premier rapport avec des flics, quoi.
Je crois que les convocations, c'est pas beaucoup de valeur astreignante. C'est si jamais t'as un recommandé avec un QC de réception, une preuve que t'as bien reçu le courrier de convocation. Là, c'est un peu plus chaud de pas y aller, je crois. Mais une convocation, c'est comme une menace d'huissier, quoi. Ça reste dans le théorique, quoi.
Ça, c'est vrai, mais c'est sûr que c'est la première phase, c'est ça là. Mais j'ai l'impression aussi, enfin, moi, l'interprétation que je peux en avoir après coup, de cette première phase là où on les sent beaucoup plus apprendre des informations sur les gens qui participent à cette lutte plutôt que nous empêcher de nuire. C'est comme moi, j'ai le sentiment qu'on est dans des zones comme ça de campagne un peu reculées où les habitants eux-mêmes s'impliquent un peu dans la lutte. C'est plus difficile pour les flics et la justice de réprimer radicalement comme ça avec violence, parce que voilà, c'est un mélange de gens, d'histoires différentes, et que notamment il y a les gendarmes habitant sur le coin, ils côtoient aussi les habitants du coin, donc la répression ne peut pas tomber de la même manière que quand c'est en ville, dans une forme d'anonymat général. Et que là, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être besoin de beaucoup prendre un peu plus de temps pour jauger la capacité d'intervenir. J'ai l'impression qu'il y a un jeu un peu comme ça, quoi, que pour être sûr de taper à bon escient, il faut que les habitants du coin se soient isolés par eux-mêmes en étant trop proches d'une population qu'ils arrivent assez facilement médiatiquement à isoler par le en les cataloguant violents, autonomes, toto, anarchistes, ou je sais pas quoi, encagoulés.
La pression grimpe sévèrement au printemps. On a l'impression que RTE et l'État veulent sérieusement mettre un frein à la lutte en cours, parce qu'ils s'aperçoivent que le chantier prend du retard à cause de l'opposition, et qui leur coûte, selon leur dire, de 15 à 20 000 euros par jour. On voit donc se mettre en place de gros moyens au niveau des forces de gendarmerie. Renfort de brigades spécialisées, accroissement des moyens de surveillance, multiplication des contrôles. Et de fait, à un moment donné, on est contraint d'abandonner les tentatives de blocage de chantier parce que les gendarmes se font plus nombreux que les opposants.
Il y avait quand même un état de surveillance qui était important. Enfin, lorsqu'il y avait des dégradations ou des actes de sabotage, donc, pas très loin du chef-ren, parce que quand on en est quand même de la triangulation de téléphone, c'est qu'ils avaient mis des moyens d'écoute non négligeables. Et encore, ça c'est là, à mon avis, la face qu'on sait parce qu'il y a eu quelques auditions, qui n'ont rien donné. Hein. Il n'y a eu absolument rien. Et sur de simples signaux, ils ont contacté des gens. Ils ont convoqué des gens. Des simples signaux de téléphone. Il y a eu des dégradations à cet endroit-là. Votre téléphone s'est allumé à ce moment-là. Dans une période, hein, c'était souvent sous quelques heures. Et donc il y a eu des convocations pour demander à ce moment-là qu'est-ce que vous faisiez, etc. Quoi. Donc...
Mais même pour nous qui habitions près des pylônes, quoi, c'était aussi stressant pour nous parce qu'il y avait une surveillance de la gendarmerie, une présence. On voyait des fourgonnettes tout le temps, il y avait les hélicos qui tournaient tout le temps. C'était vraiment oppressant tous ces mois-là. Quand ils ont commencé à vraiment surveiller tout le temps, partout.
À partir de mars-avril
avril, ouais. Jusqu'au mois de juillet à peu près, juillet-août, si je me souviens bien, et c'était étouffant.
À notre maison, en plus, nous, on logeait quand même pas mal de gens, il y avait souvent des réunions, donc avant, on a été pas mal cliqués, de ce côté-là, il y avait du flic là, en bas, là, bah. Une petite souhaite en bas, là. Voilà, ils ont eu des pneus crevés, parce que une fois, deux fois, c'est bon, j'y vais, je mets une barre de clou, ils sont pas revenus. Et puis après, c'était les vigiles. Non, les vigiles, c'était impressionnant, c'était... Pareil, ils se garaient juste en bas, là, donc une fois, deux fois, trois fois, plus de panneaux.
Mais on était contrôlés, on s'en fout. En fait, je crois que c'est ça qui les énervait le plus, c'est qu'on était plusieurs riverains à ne pas du tout avoir peur de leur répression. Oui.
Même la première fois, quand ils ont fait tous les contrôles, on leur a demandé le papier de réquisition, mais s'ils nous demandaient d'ouvrir le coffre et tout ça, on a refusé. Il me faut un papier, moi, pour ouvrir mon coffre. T'es pas douanier. Donc...
Ils ont bien fait
peur. Ils aimaient pas trop. En plus, quand tu les tutoies, ils aiment pas trop quand ils tutoient. Donc... Et quoi, 2 heures après, ils avaient le papier. 3 heures après, peut-être, ils avaient le papier pour réquisition.
Alors, en fait, le papier de réquisition, c'est un document édité ou par le procureur ou par le préfet, selon les cas, qui a aussi une heure de début, de validité et de fin. Les gendarmes n'ont pas le droit, en temps normal, ni de contrôler l'identité des passagers d'un véhicule, hormis le conducteur, ni de demander d'ouvrir le véhicule, ni de le fouiller. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de prendre le réflexe de leur demander le papier, parce que ça peut éviter aux passagers d'être identifiés ou aux véhicules d'être contrôlés un peu trop de l'intérieur. Mais là encore, la situation est à juger selon les enjeux, parce que tout le monde n'a pas toujours ni le temps ni l'envie de prendre le risque d'être immobilisé, pour peu qu'ils n'aient pas le papier avec eux, le temps qu'ils retournent le chercher en gendarmerie, si jamais il s'avère qu'ils en ont bien un.
Ah oui. Je t'ai fait contrôler pratiquement 3 fois, 4 fois en 2 heures. Tu vas faire tes courses? Tu te fais contrôler, tu reviens de tes courses, tu te fais contrôler, tu repars avec les enfants, j'allais à la piscine avec les enfants, je me suis fait contrôler, je reviens de la piscine, je me fais contrôler. Et c'est là qu'ils ont fait ça aussi pour mettre des gens contre nous, des gens du chef Rennes. Il y en a marre, des gens qui étaient achetés.
Parce qu'en fait, ils contrôlaient toutes les personnes.
Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Tout le monde.
Et puis on avait une présence policière tout le temps, quoi. Même quand il y avait eu.
Le stage de désobéissance civile.
Ça, c'était bien avant, ça.
Ouais. Mais pareil, on était déjà fliqué sérieusement, quoi.
Mais jusque-là, et jusqu'au 28 avril, c'était toujours des gendarmes, des gendarmeries locales. Et c'est vrai que 28 avril, c'était en Mayenne la première fois où on a vu apparaître des véhicules un petit peu différents et ensuite au 6 mai dans la Manche. Et après, tout le long de la ligne, régulièrement, il y avait des véhicules et certaines personnes qui venaient de Mont-Saint-Aignan, des gendarmes qui venaient de Mont-Saint-Aignan, qui venaient des chasseurs alpins de l'autre bout de la France. Enfin.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur cette lutte-là, on a eu affaire exclusivement au corps de gendarmerie. Et c'est le choix du tracé de la ligne qui en est responsable. Parce que l'intégralité des 160 km de ligne sont sur un territoire rural, et donc exclusivement du ressort de la gendarmerie.
Progressez sur 8, 1. Code 7, progressez sur 8, 3. Code 7, 8, 6, 8, 1, 8, 0. Code 1. Capitaine Magaffe en déplacement du tribunal à la mairie. Code 1, progressez sur 8, 0.
Et du coup, ça s'est intensifié jusqu'à... jusqu'à début juin, où il y a eu vraiment début des travaux chez Fresnes, arrestation, expulsion du château d'eau et le camp. Enfin, il y a
tout une... des Verts et des socialistes au pouvoir aussi. Ça correspond à ça.
C'était quand?
C'était le 6 mai.
Ouais.
La fameuse journée.
Merci les Verts.
Parlons-en du 6 mai, de l'expulsion illégale de la maison RTE. Clairement, on nous a dégagés, ce jour-là, sans autre motif préalable que l'ordonnance, sous la menace d'une grosse amende. Bah, vous imaginez, 2000 euros par heure de résistance à l'expulsion et par personne, sachant qu'on était presque 30 dans la maison. Ça fait réfléchir 5 minutes, d'autant que tout le monde n'était pas prêt à résister aux gendarmes, à monter sur le toit ou autre. Avec un dispositif en plus de gendarmes de malades, au moins une douzaine de fourgons, l'hélico et tout le tralala de GM en tenue qui encerclait la maison. Du coup, à ce moment-là, bah, les gens sont sortis, et au passage, ils en profitent pour identifier du militant. Parquage dans la cour, vérification d'identité en gendarmerie pour ceux qui n'avaient pas leur carte d'identité sur eux. Mais ce qui est sûr... c'est que ça a été la première tentative d'occupation et qu'ils ne l'ont pas laissé passer. On ne nous a pas permis de commencer à nous implanter, comme sur la ZAD avec la multiplication de squats d'habitation et d'organisations politiques. La stratégie sur ce coup-là, ça a été de couper à la base directe. Déjà que comme au début, ils avaient laissé faire et observé, que la hutte avait eu le temps de trouver un endroit pour se retrouver, s'organiser avec le château d'eau du Chefrenne, à créer des... du lien avec la mairie et la commune qui était opposée à la ligne THT, qu'il y a eu la grange, le bois, ils n'allaient pas laisser passer encore un nouvel espace d'organisation contre la ligne.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment sérieusement les intimidations et toutes les mesures qui consistaient à décourager les gens de faire quoi que ce soit, alors même qu'il y avait un truc qui prenait au niveau de la solidarité entre les gens, de l'envie de faire des choses ensemble et tout ça.
Ça, c'est la méthode RTE avec l'aide d'Adolphe. Adolphe, je ne sais plus comment il s'appelle, Adolphe.
Le préfet.
Qui est né dans la Moselle après la guerre, là.
Adolphe Colera.
Il était grave, lui. Hein. Lui, il nous a accusés de tous les dégâts qu'il y avait eu sur la ligne. C'est Yves Larsonneur qui avait tout fait. Ouais. Ah oui, mais vérité. Ouais. Ah, il a fait fort. Et j'arrivais pas pendant 10 minutes, j'ai jamais pu penser à moi. Quand j'ai pris la parole, j'ai dit, monsieur le préfet, j'ai rien à faire devant vous. C'est qu'une calomnie que vous me racontez, j'ai rien à faire devant vous, monsieur le préfet. Et de là, il m'a supplié, non, monsieur Larsonneur, restez assis, nous allons parler. Là, la méthode Adolphe.
Vous avez confié le maintien de l'ordre à un connard.
Mais c'est parfait, le maintien de l'ordre, c'est un boulot de connard, ça tombe bien.
À partir du 6 juin, la stratégie du préfet Colera se fait plus lisible. S'en est suivie une deuxième vague répressive, 15 jours plus tard, pour affaiblir l'énergie et la stratégie du camp de Montabo, l'expulsion illégale du château d'eau occupé.
Les forces de l'ordre sont donc intervenues aujourd'hui à 5h du matin au Chefrenne. Ils ont délogé deux militants anti-THT qui occupaient l'ancien château d'eau avec l'accord de la mairie avant un week-end dit de résistance au projet de ligne à très haute tension. Stéphanie Vino et Joël Amar.
Le château d'eau est désormais interdit à toute personne, même de la commune, propriétaire des lieux, même de l'association Percy sous tension, locataire. Un huissier est venu constater l'occupation des lieux par les gendarmes. Jean-Claude Bossard, maire démissionnaire du Chefrenne, est excédé une nouvelle fois par les méthodes de l'État et du préfet.
Aucun préfet ne peut faire ça. Dans les années 40, c'était possible.
Je suis ni préfet ni ministre.
Dans les années 40, c'était possible. C'est plus possible aujourd'hui, même pour la THT. Hein.
Après, moi, j'ai pas tous les éléments. Même, enfin, le souvenir que j'en ai, c'est quand même les jours qui précèdent le camp de Montabo, où heureusement qu'il y a une montée en puissance, quoi, qui est autour de. J'ai l'impression que ce moment-là, là, autour, enfin, les quelques semaines avant le camp du Chefrenne, j'ai l'impression qu'il y a une opération qui s'autorise d'un seul coup à la répression autour au Chefrenne parce qu'il décide de faire le pari que c'est une commune isolée et que le maire du Chefrenne n'a pas tant que ça de relais politique. Donc il s'autorise à l'embarquer en garde à vue, il s'autorise à reprendre le château d'eau appartenant à la mairie, confié à une association, enfin une association, donc quitte à même à enfreindre le droit. Enfin, il y a vraiment l'idée de circonscrire la lutte anti-THT à la commune du Chefrenne et à s'autoriser en fait des éléments de des moyens de répression qu'ils n'avaient jamais utilisés à ce moment-là, en faisant le pari que ça ne fera pas tache d'huile le soutien à cette commune assiégée par les flics. Quoi.
Enfin, il se passe tout un tas d'opérations pour... déjà, le fait qu'ils prennent le château d'eau, ça leur permettait de nous couper d'une vigie aussi. Enfin, ça servait à plein de choses, le château d'eau.
Ah, c'est sûr que le château d'eau étant situé en haut de la butte du chef Rennes, il était un point d'observation stratégique majeur, et pour nous, et pour eux, pour le week-end de résistance qui se préparait. Et en agitant le danger de mise en péril, la préfecture faisait ainsi une pierre deux coups, quoi. Elle nous dégageait et elle installait des gendarmes à notre place. Elle nous dégageait de ce qui avait été notre espace et le point de rendez-vous de la lutte pendant les mois qui avaient précédé. Et là, le travail de sape psychologique est on ne peut plus clair.
Ils ont un peu préparé à l'avant-camp, quoi. Ils ont sécurisé des endroits de chantier et puis calmé un peu les occupations là-bas, quoi. Ils ont fait en sorte que ce soit pas totalement une zone de non-droit, enfin, qui est que le bois du chef Rennes et possiblement un camp à venir après. Ils se focalisaient là-dessus, quoi, sur des anarcho-autonomes qui viennent de toute la France pour tout casser, des dangereux barbares.
Relayés par la sous-préfète. Mmh.
Lorsqu'on regarde les plaques d'immatriculation, on voit bien qu'elles sont non pas de la région, mais de toutes les régions de France, y compris très loin, ce qui nous laisse également penser que ce sont des gens qui sont venus dans un but précis.
Lequel ?
Celui de déstabiliser les forces de l'ordre et de lutter, alors peut-être pas vraiment contre la THT, mais en tout cas contre l'ordre établi, manifestement.
Donc ça joue vachement aussi, je pense, sur le maire, les verts, les gens du coin. Discuter à une AG de préparation du camp, c'était pas de faire d'action de sabotage sur les pylônes, c'était de faire un truc marrant, mais de se dire que l'idée c'était qu'il y ait du monde, et puis qu'on avait évoqué le fait d'arriver avec des grosses clés en carton, enfin de faire un truc plutôt ludique pour expliquer comment démonter les pylônes et puis de partager ça. Et pas forcément, parce qu'on sentait justement que la répression a commencé à arriver sérieusement et que ça allait être chaud.
Il y avait quand même l'artillerie.
Oui, dis donc.
Oh !
C'était impressionnant.
Putain, mais non, hein. Alors, comment ça va faire,
et
là ?
Et même là-haut, hein, quand il y a eu la manif, là. Putain, mais c'était impressionnant, tous les
cas. Oh, mais il y avait partout.
Ce qu'il y avait, non, mais c'était un truc de fou.
Je suis pas arrivé avec l'idée qu'il n'y aurait pas de répression, qu'il y aurait une présence policière, ça, j'en étais sûr. Enfin, dans ma vision par rapport à ce que je savais aussi de ce qui s'était passé avant, effectivement, l'expulsion du château d'eau, la répression, tout ça, je la connaissais en arrivant. Donc, je suis arrivé là-bas en me disant, je vais pas à un campement qui va être tranquille, on va discuter de THT pendant tout un week-end, quoi.
Putain, attends, et toute la nuit, là, c'était apocalyptique, je peux te garantir, impossible de dormir, mon Dieu. On déconne, quoi, les autres enfoirés, là, qui étaient sur le. Et ils venaient toutes les heures pour te faire chier. On pouvait pas dormir.
Et en plus, on tente pour la première fois, quasiment, une grosse action de déboulonnage. Enfin, c'était pas la première fois, mais. Enfin, qui voulait vraiment aller même peut-être plus loin qu'un déboulonnage, être plus que symbolique. On le tente en plein jour avec une présence policière. Jamais atteinte jusque-là sous les pylônes. Quoi. Donc y avait, ça, c'est vrai qu'on a manqué de lucidité à ce moment-là pour dire stop avant qu'il soit trop tard. Quoi.
Ouais, moi personnellement, avec des amis, on croyait pas du tout à cette action. Quoi. On savait que ça allait être parti au casse-pipe. Et en fait, on est quand même allé, quoi, en sachant que, voilà, que ça allait mal finir parce qu'on partait dans un goulet d'étranglement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de policiers en face. Mais voilà, solidairement, je sais pas où pas, on est allé quand même. Quoi, pour que ça fasse masse, quoi, pour qu'il y ait du monde un peu plus. Quoi.
Et là, je pense que ce qui a été compliqué avec ce campement, c'est que ça passait de lignes successivement franchies à une très grosse ligne d'un coup, en fait. C'est-à-dire que le palier a été beaucoup trop gros d'un coup. Pour les gens qui sont allés d'un côté vers le déboulonnage et qui se sont heurtés à un mur policier, mais aussi pour la manif des gens qui étaient beaucoup plus paisibles et qui pensaient pas se faire gazer en arrivant sur les... Et là, quelque part, nous, on n'y peut rien, en fait, parce que... En fait, on peut pas trop s'autoflageller parce que personne n'est jamais préparé à la répression. Et là, en l'occurrence, on pouvait pas... Enfin, ça a été pensé de telle manière quand même à épargner une partie de cortège qui voulait pas ce niveau de conflictualité et qui l'a quand même subi, en fait. Et là, on n'y peut rien, en fait. C'est que si la police a décidé... Et ben, c'est que le préfet, quelque part, a décidé de casser tout le monde, en fait. Et ça, c'est clair que là, on voit vraiment... à l'œuvre une logique d'écrasement de la contestation.
Bah, l'objectif des flics sur le camp de Montabeau, c'était clairement de s'aborder la lutte et de nous casser, quoi, psychologiquement. Et en fait, ils ont complètement réussi à nous empêcher d'entreprendre quoi que ce soit contre la ligne. On n'a pas pu approcher les pylônes. Et une bonne partie des militants et des militantes ont été traumatisés, quoi.
Enfin, ça a été une demi-heure, une heure, je sais pas, une demi-heure, une heure de gazage intensif et de grenades de désencerclement. Enfin, voilà, il y a eu 25 blessés, un truc comme ça, en une demi-heure. Et des blessés graves, avec deux ou trois personnes qui se sont pris des éclats à côté des yeux et plein de gens qui ont eu des éclats de grenades dans les jambes, enfin, et dans tout le corps.
Enfin, là, il y a beaucoup de gens qui ont déchanté à ce moment-là. Les véhicules de secours n'arrivaient pas et étaient bloqués par les gendarmes en aval du camp.
Du coup, des gens qui, après ça, en fait, ont jamais pu oublier la force de cette répression-là, parce que juste, elle était marquée dans leur corps pour toujours, quoi. Parce que des mois plus tard, ils continuaient à ressentir les douleurs provoquées par ces trucs-là, quoi.
Je pense que c'est là que... C'est là qu'on se pose la question de stratégie contre-insurrectionnelle, c'est-à-dire le moment où le préfet va choisir de casser, attaquer psychologiquement très fort, en fait. Et c'est un truc qu'on a retrouvé à Notre-Dame-des-Landes et à Sivens, c'est ce truc où il y a un niveau de violence qui est très élevé, très bref, et qui est exercé de façon totalement... Enfin, je sais pas, c'est comme un tir de barrage, en fait. On envoie massivement des troupes qui ont pour ordre d'aller jusqu'au bout. Et même on voit dans les dialogues, parce que c'était intéressant, les dialogues qu'on a pu voir dans une vidéo qui est ressortie après entre les policiers, ce truc de « on va se les faire, on va y... » Ça montre qu'ils ont vraiment aussi une certaine liberté qui est laissée dans la répression, c'est de dire « cassez-les, en fait. Il faut les casser. Vous avez ordre de les casser. » Et que ça brise le mouvement, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment un truc de cet ordre-là dans les ordres qui sont donnés, en fait. Mais après, il y avait aussi une certaine impatience, parce qu'il y a aussi l'idée d'un moment donné de faire cet acte symbolique ou en nombre et d'aller déboulonner un pylône et tout ça. Donc ça, il y a les dynamiques contraires, en fait. L'enthousiasme, le sentiment aussi d'un... J'aime pas trop utiliser ce mot, mais le sentiment de puissance collective qui est celui d'engouement, en fait. De se dire, là, on va pouvoir le faire parce qu'on est beaucoup. Et donc, je pense que cette dynamique-là, elle allait à l'encontre de l'ambiance pesante que faisait. Mmh. Et je pense que c'est vraiment au moment où il y a eu l'affrontement que la prise de conscience brutale du décalage total entre. Je pense que j'avais pas pris conscience jusqu'à ce jour-là de l'asymétrie totale dans laquelle on militait, en fait. De à quel moment l'État allait, lui, prendre le dessus, prenait le dessus, en fait, et qu'il y avait une asymétrie totale dans le rapport qu'on engageait avec lui, en fait, qui pouvait hausser assez brutalement le cran de violence s'il le décidait, en fait. Et qu'à ce moment-là, nous, on serait totalement démunis, impuissants et totalement vulnérables, en fait. Non, c'est vrai qu'il y avait un niveau d'intensité qui était particulièrement élevé. Un niveau de conflictualité et d'intensité au niveau de l'engagement policier que moi, j'avais pas connu, à part dans des gros contre-sommets, en fait. Ce niveau-là de violence, je le connaissais pas sur des luttes locales, en fait. Oui. Et là, j'avoue que ça m'a particulièrement surpris et je pense que tout le monde a été assez déconcerté par ce niveau de violence qu'on a retrouvé plus tard dans l'année à Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs. Donc c'était vraiment contextuel aussi. On a eu un haussement brutal du niveau de violence et d'engagement de la police contre les militants dans le cadre de ces luttes, en fait. Ils pensaient vraiment dissuader l'action, à mon avis. Et du coup, les ordres ont dû être assez difficiles à avoir aussi, à mon avis, par rapport à cette situation. Et ils ont interpellé ce qu'ils pouvaient interpeller à un moment donné. Ils ont capturé quelqu'un. Et après, ils ont eu ordre de refouler dans le campement, en fait. Le but, c'était de nous renvoyer dans ce campement, coûte que coûte, en fait. Nous contenir, en fait. Et les ordres, à mon avis, étaient beaucoup plus contenir que sévir et capturer, arrêter, en fait.
C'est un silence de mort qui se fait de plus en plus pesant. Humas inerte, amorphe, qui subit en se taisant, ruinant tous les actes qui on parle encore de gouvernement. Mais chaque fois que la révolte naquit, c'était sous un régime oppressant. Les grands chocs imminents réveillent ce peuple dormant. L'or et l'argent achetant, le silence se fait assourdissant, sclérosant. La rage rayant certaines lignes de nos pages, un fascisme rampant.
Malgré tout, pour la personne interpellée lors de la tentative de sortie du camp, ce sera le début d'un parcours judiciaire long et éprouvant. À part le procès de Michel Houssin, le procès du camarade arrêté lors du week-end de résistance à la THT est le seul autre procès qu'il y aura sur la Manche, et c'est le seul qui met en cause quelqu'un d'impliqué dans les initiatives de l'Assemblée. Et donc de potentiellement, au regard de la justice du moins, plus subversif et violent qu'un militant du coin. En tout cas, le fantasme des dangereux anarcho-autonomes venus de toute la France pour casser du flic est au cœur de cet unique procès, comme il était au cœur de la communication de la préfecture au moment du camp.
L'étudiant brestois comparaissait donc aujourd'hui devant le tribunal de Coutances dans la Manche pour des faits s'étant produits le 24 juin dernier au cours de rassemblements anti-THT. Son avocat plaide la relaxe des anti-THT, était là aujourd'hui pour le soutenir. Stéphanie Vino et Joël Amar étaient à l'audience.
On va plaider la relaxe parce que le délit de violence n'est pas qualifié.
Qu'il n'y a pas d'armes, les gendarmes ne l'ont pas reconnu comme étant l'auteur des coups. Il y a l'aspect technique des infractions qui lui sont reprochées et qui, pour moi, ne tiennent absolument pas la route.
Les conditions qui permettent de qualifier un délit d'attroupement, de participation à un attroupement armé ne sont pas remplies. Les manifestants étaient encerclés par les gendarmes. Il y a eu un usage de la force qui a été initié par les gendarmes.
Mais on voit bien que pour le juge et ses assesseurs, la question n'est pas là. Peu leur importe que ce soit un attroupement armé ou que ce soit lui ou non qui ait blessé personnellement les gendarmes. La question est plutôt dans le fait qu'il avait déjà un antécédent judiciaire et un sursis pour violence sur agent. D'où une réquisition sévère du procureur et un verdict à de la prison ferme. 3 mois en première instance et finalement 4 mois en appel.
Ça devient complètement incompréhensible puisque à l'audience, Madame le substitut avait abandonné les poursuites du chef des blessures contre les deux gendarmes dénommés. Puisqu'elle estimait précisément, d'ailleurs les gendarmes eux-mêmes ne l'avaient pas reconnu, il se prétendait blessé par une barre de fer, il n'avait jamais porté de barre de fer, l'auteur était porteur d'un caouet orange, donc Madame le substitut avait abandonné les poursuites de ce point de vue-là.
Et pour compléter le propos, s'il se passe des événements pénalement répréhensibles durant une manifestation, et que l'on est identifié comme présent dans cet attroupement, la justice considérera que c'est un motif suffisant pour être condamné par rapport au délit constaté.
Maintenant, le but poursuivi par le procureur, le préfet, etc., c'est de voir condamné, peu importe la peine à la limite. Et à partir du moment où il est condamné, eh bien, c'est encore quelqu'un qui est terrassé et avec lui le mouvement lui-même qui serait atteint.
La lutte anti-THT, c'est malheureusement, et la lutte anti-nucléaire, ce ne sont malheureusement pas seulement des luttes qui s'attaquent à des entreprises telles que RTE, EDF, Areva. Mais c'est aussi malheureusement s'attaquer à tout un système qui fonctionne avec, que ce soit un système préfectoral, que ce soit un système judiciaire.
Alors que le mouvement a pris sévèrement un coup, l'État met en place et expérimente, dans les 2 mois d'été qui suivent, une opération militaire de surveillance et de contrôle du territoire encore sans précédent sur ce type de lutte.
On avait l'impression que la Manche était coupée en deux et que dès qu'on passait sous la ligne, on essayait effectivement de... Donc, il y avait une frontière en fait entre l'Est et l'Ouest de la Manche.
C'est cette opération démesurée que les gendarmes ont nommée l'opération Gilbert.
Et qui a été considérée comme étant un succès par la gendarmerie parce que les actes de dégradation ont fortement diminué. Et de fait, on a l'impression qu'il y a eu une baisse qui est à la fois le contre-coup du camp, à la fois dans cette situation-là aussi, plus de difficultés à se retrouver les uns les autres, à s'entendre, à se comprendre. Et puis en même temps, une continuité de la mainmise gendarmesque sur le territoire.
On voyait bien quelles étaient les 2 premières raisons d'être de ce déploiement policier. Qui était de tenir les délais de construction de ce chantier, ce qui impliquait de continuer à écraser la résistance. Et ce n'est qu'avec le recul maintenant qu'on voit à quel point la pression du calendrier de la centrale nucléaire de Flamanville a joué aussi un rôle majeur dans le matage de la contestation. EDF et sa toute-puissante filiale RTE a donc préféré abattre à tout prix la lutte, plutôt que de prendre le risque de voir reporter la construction de la ligne d'une année.
En effet, un des 2 réacteurs de la centrale de Flamanville était arrêté pendant l'été et devait redémarrer absolument avant le 3 septembre 2012. Et les travaux réalisés sur la ligne existante et la nouvelle ligne, construite en parallèle sur le tronçon nord du chantier, devaient donc absolument être terminés pour permettre l'évacuation de l'électricité de ce réacteur via la ligne existante datant, elle, des années 80. On comprend donc mieux pourquoi les moyens mis en œuvre pour construire à tout prix ce tronçon qui va du poste de transformation de Tôte jusqu'au Guilin nous paraissaient disproportionnés pour une seule ligne en construction, devant être raccordée à un futur EPR loin d'être terminé.
Il ne faut pas croire que le camp et l'opération Gilbert ont anéanti complètement la résistance à la ligne. L'automne marquera un retour des manifestations en ville pour remobiliser. Et dans les 6 mois suivants, des actions de terrain continuent, de nouvelles actions collectives de blocage chez les dernières personnes qui refusent de traiter avec RTE, et des actions de nuit se perpétuent, comme de multiples incendies. Et de toute manière, la pression policière se relâche à l'automne, les forces de gendarmerie étant sûrement remobilisées sur la ZAD pour l'opération César. Au final, la ligne sera raccordée plus de 6 mois après la date initialement prévue. Listen to me, I hope you could stay. I need you today, I pray. Oh, dona dona do diaspora. Year after year, my best souvenir. Wish you. Vous venez d'écouter le premier volet de l'épisode 4. De la série radiophonique Ça grésille dans le poteau, histoire de la lutte contre la THT Cotentin-Maine. À suivre son second volet, sur la répression en Mayenne, intitulé Grandeur et bouffonnerie de la répression mayennaise. Bonne écoute.
Vous pouvez nous retrouver sur antitht.noblogs.org.